VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le lundi 9 septembre 2019, bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale en direct de Washington. Je suis Irene Armanongo.
Et moi, Michel Joseph.
Pour vous présenter ce journal dont voici le sommaire.
Au moins 29 personnes ont été tuées hier au Burkina Faso dans deux attaques.
Sécurité entre le Niger et le Nigeria. Quatre gouverneurs des deux pays se sont réunis ce week-end à Maradi, dans le sud-est nigérien, pour examiner la question.
De nouvelles violences xénophobes en Afrique du Sud ont fait hier 5 blessés. Nous en parlerons dans ce journal.
Madagascar, près de 2 millions de fidèles étaient à la grande messe du pape François, messe au cours de laquelle il a appelé à construire l'histoire dans la fraternité et la solidarité.
En RDC, les Congolais évoquent leurs attentes du premier gouvernement de Félix Tshisekedi.
Ne manquez surtout pas notre page sport ainsi que la minute éco, mais avant le journal.
Au Burkina Faso, au moins 29 personnes ont été tuées dimanche dans deux attaques, dont l'une à l'engin explosif improvisé dans deux localités de la province du San Matenga, dans le nord du pays. Ces attaques ont provoqué des exodes de population, notamment dans le nord. Des sources sécuritaires avaient auparavant fait état d'un bilan d'au moins 20 morts. Un sommet des chefs d'État sur la sécurité dans la sous-région est prévu pour le 14 septembre à Ouagadougou. Les précisions avec notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
29 morts, 6 blessés et des dégâts matériels, c'est le bilan de deux attaques hier selon le gouvernement. D'abord, un convoi transportant des vivres a été attaqué entre Kelbo dans le Sahel et Dablo dans le centre-nord par des individus armés non identifiés, a confié à VOA Afrique, une autorité locale. 14 personnes, des civils, ont été tuées selon le gouvernement dimanche nuit. La source de VOA précise que ce convoi de vivres, des tricycles, partait ravitailler les populations de Kelbo quand les terroristes ont ouvert le feu sur ces civils. Concernant la deuxième attaque, il s'agit d'un véhicule de transport en commun qui a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Barsalogo-Gembila, des localités du centre-nord. L'attaque a fait 15 morts et 6 blessés, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Des renforts militaires ont été déployés et des opérations de ratissage sont en cours, annonce le gouvernement. Un responsable de la Ligue des consommateurs du Burkina, Serge Horace Bambara, a été tué par balle samedi soir à Pobé-Mengao, dans la province du Soum, dans la région du Sahel, selon plusieurs sources. Les circonstances et les auteurs de cet assassinat restent inconnus. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Quatre gouverneurs des États voisins du Niger et du Nigeria se sont réunis samedi et dimanche à Maradi dans le sud-est nigérien. Objectif, examiner la situation sécuritaire et notamment les attaques des bandes armées qui opèrent le long de leurs frontières. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Des responsables des forces de défense et de sécurité des deux pays ont également pris part à cette rencontre. Ils ont reconnu la prolifération des armes, des munitions, de la drogue dans la zone transfrontalière entre la région de Maradi au Niger et les États fédérés de Katsina, Sokoto et Zamfara au Nigeria. Ils ont également appelé à une intensification des efforts pour contrecarrer les actions des groupes à un contrôle de sécurité renforcé. Les bandits procèdent à des enlèvements contre rançon, attaquent des commerçants et font des razzias de bétail qu'ils conduisent au Nigeria, d'après le ministère nigérien de l'Intérieur. Niamey avait renforcé en 2018 la surveillance de sa frontière avec le Nigeria pour faire face aux violences perpétrées par des bandes armées qui avaient déclenché un afflux de réfugiés nigérians à Maradi. Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, les autorités de Maradi ont répertorié 31 personnes tuées et 34 blessées dans 81 attaques de bandits armés. En décembre, 10 militaires, dont 5 Nigériens et 5 Nigérians, avaient été tués lors d'une opération conjointe le long de cette frontière. Le Niger et le Nigeria doivent aussi faire face aux attaques récurrentes de Boko Haram dans leurs zones du sud-est et du nord-est.
La chasse aux étrangers se poursuit en Afrique du Sud. Au moins une personne a été tuée hier dimanche dans de nouvelles violences xénophobes dans le centre-ville de Johannesburg, la plus grande ville du pays. Ces violences dirigées contre les étrangers ont également fait 5 blessés selon la police locale. Le point avec Eric Manerakiza.
Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est formée dans un quartier défavorisé du centre de la capitale économique du pays et a attaqué des magasins en demandant, selon la presse locale, le départ des étrangers. La police a rapidement dispersé la foule par des tirs de balles en caoutchouc et de grenades paralysantes. La police a indiqué dimanche soir sur son compte Twitter que la situation était sous contrôle et qu'elle continuait à surveiller le quartier pour éviter tout nouvel incident. En début de semaine, l'Afrique du Sud a connu une vague d'émeutes xénophobes, notamment à Johannesburg, qui s'est soldée par la mort d'au moins 10 personnes, plus de 400 arrestations et des dégâts considérables, selon le dernier bilan de ces autorités. Elles sont nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui frappe sa population. Ces émeutes ont causé émotion et colère dans toute l'Afrique. Dans certains pays comme le Nigeria, des manifestations visaient en représailles les intérêts sud-africains.
L'ancien président zimbabwéen devrait être enterré dimanche prochain après une cérémonie officielle organisée la veille à Harare. Selon les autorités, son corps sera rapatrié mercredi de Singapour. Depuis vendredi, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa a décrété un deuil officiel et a décerné à son prédécesseur le statut de héros national qui lui offre une place dans le champ des héros de la nation, le panthéon zimbabwéen, mais la famille du président déchu n'y serait pas favorable.
Après le Mozambique et Madagascar, le pape termine aujourd'hui sa tournée africaine d'une semaine par une visite éclair à Maurice, une île multiethnique et touristique de l'océan Indien. Hier à Madagascar, des milliers de fidèles chrétiens ont assisté à la messe du pape François. À cette occasion, le souverain pontife a rendu un hommage vibrant à une cité modèle, procurant un toit et du travail aux exclus. Retour sur cette étape du pape avec Eric Manirakiza.
Une messe géante, attendue avec ferveur par les habitants de la grande île, a rassemblé un million de fidèles, selon les organisateurs, massés en lisière de la capitale Antananarivo. Le pape argentin a appelé à construire l'histoire dans la fraternité et la solidarité, dans le respect gratuit de la terre et de ses dons, contre toute forme d'exploitation. François s'en est pris à certaines pratiques qui aboutissent à la culture du privilège et de l'exclusion, comme le favoritisme donné aux liens de parenté. Les 9 dixièmes des 25 millions d'habitants survivent avec moins de 2 dollars par jour. Beaucoup d'habitants ne mangent pas à leur faim et ne vont pas à l'école. Le souverain pontife est ensuite venu apprécier la cité d'Akamasoa, qui a sorti des milliers de personnes de la misère en créant sur les immondices d'une ancienne décharge une ville de 25 000 habitants. Aujourd'hui, le pape termine son voyage par une visite éclair à Maurice, île multiethnique nettement plus prospère de l'océan Indien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Entre évacuation, recherche de victimes et risques sanitaires, les Bahamas sont prêtes à faire face à une longue crise humanitaire, une semaine après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian qui a encore causé des dégâts très loin de là au Canada. Le bilan provisoire, selon les autorités bahaméennes, n'a pas bougé depuis vendredi soir à 43 morts, mais les dirigeants de l'archipel ont averti qu'ils allaient irrémédiablement grimper.
Le passage d'un puissant typhon qui a balayé Tokyo dans la nuit d'hier à aujourd'hui a fait un mort, des dizaines de blessés et provoqué des coupures de courant et de très importantes perturbations dans les transports selon les autorités.
Une quinquagénaire a été tuée après avoir heurté un mur emporté par la puissance du vent en traversant une rue selon les images de caméras de surveillance, a annoncé la police de la mégapole. Plus de 30 personnes ont par ailleurs été blessées dans la région, dont une grièvement après l'effondrement d'une structure d'entraînement de golf qui a saccagé le toit de sa maison. Accompagné de rafales de vent poussant dépasser 200 km/h, le typhon Faisal a touché terre dans la nuit le long de la région de Chiba, au sud-est de la capitale, après avoir franchi la baie de Tokyo.
Washington a laissé dimanche la porte ouverte à de nouvelles négociations avec les talibans sur le conflit en Afghanistan. Rompu de manière spectaculaire la veille par le président Donald Trump, mais les insurgés ont menacé les États-Unis d'une souffrance sans précédent pour leur revirement.
Le président américain a créé la surprise par une double annonce samedi soir. Il a d'abord dévoilé avoir organisé dans le plus grand secret une réunion prévue ce dimanche dans sa résidence de Camp David avec son homologue afghan Ashraf Ghani et surtout avec les chefs des talibans. Mais il a aussi d'un coup de Twitter annulé à la fois cette rencontre qui s'annonçait aussi historique que controversée et les pourparlers en cours depuis un an avec les insurgés qui semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord après 18 ans de conflit en Afghanistan.
Le Hezbollah libanais a annoncé ce lundi avoir abattu un drone israélien au moment où celui-ci traversait la frontière avec le Liban. Une semaine après, une confrontation entre le mouvement chiite et l'État hébreu.
Passons à présent à la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Guinée équatoriale ambitionne de négocier un financement de 700 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international d'ici 2020, révèle l'agence Bloomberg. Pour obtenir ces fonds, Malabo compte s'appuyer sur les résultats obtenus grâce aux réformes mises en place depuis quelques années et qui devraient d'ailleurs conduire à enregistrer au cours de cette année son premier excédent budgétaire depuis 2014. Le FMI vise à mettre en place des réformes dans les 6 pays membres de la CEMAC qui subissent de plein fouet les conséquences de l'effondrement des cours du pétrole depuis 2014, freinant leur croissance et plombant leurs réserves de change. Le Ghana et l'Office des phosphates du Maroc ont signé un accord pour la construction d'une usine d'engrais d'ici 2014, écrit l'agence Ecofin. L'infrastructure sera dotée d'une capacité de production annuelle de 1 million de tonnes par an. Pour son approvisionnement en matières premières, elle dépendra du gaz ghanéen et du phosphate marocain. Pour terminer, la Namibie et le Botswana projettent de construire 5 gigawatts de centrales électriques au cours des 20 prochaines années pour connecter 12 pays de la sous-région qui utilisent leur électricité. Les deux pays ont un fort taux d'ensoleillement nécessaire pour accueillir de grandes infrastructures solaires. Le Botswana et la Namibie disposent également d'un bon environnement légal et réglementaire, de l'espace nécessaire à l'implantation des infrastructures et ont le potentiel de devenir des fournisseurs d'énergie abordables pour la demande croissante de la région.
Escale à la page sport de cette édition avec Élisée Rompatny. Élisée, bonjour.
Bonjour à tous.
Football avec le tour préliminaire, retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et on connaît les premiers qualifiés.
Oui, et le Burundi au tapis. Les hirondelles de Saïdo Beraino éliminées après les tirs au but en Tanzanie. Ça passe pour l'Éthiopie après un nul un partout au Lesotho, pour la Guinée équatoriale qui a dominé le Soudan du Sud 1-0 et pour le Libéria. Le Libéria pourtant battu 1-0 en Sierra Leone. Les Lone Stars avaient heureusement pour eux remporté 3-1 le match aller. La suite demain avec les 10 dernières affiches dont Togo Comores, Soudan Tchad et Rwanda Seychelles.
Élisée, pendant ce temps, d'autres sélections africaines préparaient les éliminatoires de la CAN 2021.
Tout à fait, et ceci à travers des matchs amicaux. Et hier, le Kenya a fait match nul, un but partout à domicile contre l'Ouganda. Aujourd'hui, le Bénin, après sa victoire 2-1 de vendredi dernier devant la Côte d'Ivoire, va défier l'Algérie, championne d'Afrique au stade du 5 juillet à Alger.
Au Togo, la SSK remporte la Supercoupe des champions au grand stade de Palimé.
Le club de Kara, champion en titre, a battu Maranatha, vainqueur de la Coupe nationale au tir au but 6-5, 0-0 après le temps réglementaire. Cette finale lance la saison 2019-2020 au Togo. Le championnat reprend donc cette fin de semaine.
Volleyball au Bénin, le championnat national a rendu son verdict hier.
Entente chez les dames et finances au niveau des hommes ont conservé le titre de champion du Bénin. C'est à l'issue des finales disputées hier à Boïcon. Et comme l'année passée, les filles de l'entente ont battu l'équipe d'Alada 3-7-2. Même score chez les hommes, même si le match a été plus compliqué pour l'équipe de finances contre les militaires de l'entente. Son capitaine Moukaïla Hadi s'explique.
Nous avons fait face à un adversaire très redoutable qui a bien joué. Il a fallu que nous allons puiser au plus profond de nous-mêmes pour venir à bout de cette équipe-là.
Qu'est-ce qui s'est passé durant
le match? C'est vrai qu'ils nous menaient, de 2 points. Ils étaient à 1 point pour la victoire. Mais nous nous sommes reconcentrés. Nous nous sommes dit que Il fallait nécessairement cette coupe-là pour faire trois fois de suite.
Basket pour finir à Mondial 2019 en Chine et on connaît le représentant africain qualifié pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.
Oui, il s'agit du Nigeria, vainqueur de la Chine 86-73. Les Nigériens ont ainsi assuré leur qualification directe pour les JO en terminant meilleure nation africaine de la Coupe du Monde. Ils finissent juste devant la Tunisie à la différence de points.
De nouveau avec vous, Irénée Armène-Rougon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, les Congolais attendent beaucoup du président du premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, investi en fin de semaine par l'Assemblée nationale. Le gouvernement Sylvestre Ilunga a présenté un programme ambitieux. Il repose sur 15 piliers pour changer le Congo. Les habitants de Kinshasa sont cependant impatients de voir traduire en actes les promesses du gouvernement de Kinshasa, Thierry Kabundi.
375 ont voté pour, 4 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement parce qu'ayant recueilli plus de la majorité absolue des voix.
C'est le visa qu'attendait le Premier ministre Sylvestre Ilunga et son gouvernement pour commencer à travailler. Investi à une large majorité à l'Assemblée nationale, le nouveau gouvernement doit désormais relever comme défi l'application de son ambitieux programme pour le bien-être des Congolais et le développement de la RDC. Pour Stéphane Mukinzi, militant du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, la priorité du gouvernement Ilunkamba devrait être notamment la pacification de l'Est de la RDC et la lutte contre la corruption.
Après l'investiture du gouvernement Ilunkamba, l'heure est au travail et nos attentes sont notamment celles de voir la partie Est de notre pays être totalement pacifiée. Nous attendons également de ces gouvernements la pérennisation de la gratuité de l'éducation des bases. Et à côté de l'éducation, nous pensons directement à la politique sanitaire qui doit être repensée. Côté aussi des petits commerces, comme le Premier ministre l'a promis devant les députés nationaux, le petit commerce doit revenir essentiellement aux nationaux. Et les fonds de l'État, tout ce qui est argent de l'État, doit être géré dans toute transparence.
Bien que n'ayant pas pris part à l'investiture du gouvernement par respect du mot d'ordre de sa famille politique, le député de l'opposition Christophe Lutundula fait quelques recommandations au Premier ministre Sylvestre Ilunga.
Poursuivre sans tergiversation la décrispation politique amorcée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et respecter les droits de l'opposition. Obtenir la grâce présidentielle en faveur de condamnés du procès de l'assassinat odieux du président Laurent Désiré Kabila. Nous proposons la création d'une commission paritaire parlement-gouvernement chargée de fixer désormais avec équité et transparence des grilles de salaire harmonisées du secteur public. Nous demandons au gouvernement un audit des biens publics dans les ministères, les provinces, les sociétés d'État, les établissements et organismes.
Dans les rues de Kinshasa également, on attend du concret de la nouvelle équipe de l'exécutif national.
Le peuple n'a pas besoin de théorie. Le peuple n'a pas besoin de calculs. Le peuple a besoin du changement, de voir le concret. Le concret, ça veut dire ce que nous disons tous, le peuple d'abord, c'est le bien-être, le développement de ce pays, le bien-être social, l'épanouissement, de manière à ce que le Congo et toute la population puissent se retrouver.
Sylvestre Ilunga a promis, comme le président de la République avant lui, une évaluation à moyen terme de ses ministres. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
C'est aujourd'hui la rentrée universitaire au Niger, occasion pour notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, de faire l'état des lieux de l'enseignement supérieur public qui a connu des crises multiformes ces dernières années dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voici son reportage.
Lamine Souleymane travaille actuellement sur un projet de thèse doctorale en médias et sécurité à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Niamey. Pour ses recherches, le jeune journaliste dit rencontrer beaucoup de difficultés en termes notamment d'accès aux ressources documentaires et de financement.
On n'a pas accès très rapidement et facilement, je dirais, à des documents. Vous pouvez passer un an avec votre projet de thèse assez fourni, mais très malheureusement, vous pouvez être heurté à un obstacle comme celui d'accéder à quelqu'un qui peut encadrer votre travail. La deuxième difficulté aussi, c'est l'accès à la bourse de recherche. Moi, je n'ai jamais eu une bourse, bénéficié d'une bourse de recherche depuis que j'ai commencé du cycle du 2A jusqu'à la phase où je suis.
Ils sont nombreux comme Lamine dans cette situation. Même les enseignants-chercheurs font face au sous-financement des travaux, reconnaît Amadou Bounti Diallo du département de philosophie.
Même les bourses d'études censées chaque 2 ans permettre aux gens d'aller dans les universités étrangères pour se ressourcer et pour se mettre à niveau, ces bourses-là aujourd'hui prêtent en tout cas à plus ou moins confusion. On peut rester 2 ans, 3 ans sans obtenir en tout cas et c'est pas des problèmes qu'on peut cacher.
Les autres défis de l'enseignement supérieur au Niger ont pour nom surpopulation dans les campus, insuffisance du corps enseignant, manque d'infrastructures. Tout cela concourt à la baisse généralisée du niveau des étudiants. Aussi, selon les observateurs, le système d'enseignement n'est pas suffisamment maîtrisé par tous les acteurs.
L'LMD, c'est un système avec une philosophie et surtout une flexibilité de la formation. Je pense que beaucoup d'acteurs sont dans le système sans pouvoir le maîtriser. Et vous constatez que donc, on a ouvert des filières en LMD, aussi bien dans les universités publiques que dans les écoles. Mais concrètement, qu'est-ce que cela donne en tant que produit fini sur le marché? Vous constatez que le produit fini n'est pas à la hauteur.
Le Niger compte 8 universités publiques. Celle de Niamey est la plus ancienne et la plus peuplée, avec un effectif de plus de 23 000 étudiants en 2018, suivi par quelques 500 enseignants et chercheurs. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, 1006 éléments des groupes armés ont intégré les forces armées et de sécurité maliennes FAMA. Ils ont été formés dans différents centres d'instruction, une formation qui entre dans le cadre de l'accélération du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR en phase avec la mise en œuvre de l'accord d'Alger de 2015. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est dans les vastes centres d'instruction des forces armées et de sécurité du Mali FAMA de Bafo dans la région de Ségou que les 1006 ex-combattants formés ont été présentés. Général de brigade de Keba Sangaré, chef d'état-major de l'armée de terre.
M'adressant solennellement à vous, désormais membres des forces armées et de sécurité du Mali, prêts à servir sous le drapeau national, vous devez toujours garder à l'esprit que le drapeau national, emblème de la patrie, c'est la fierté de tout un peuple, le peuple malien. À partir de ces instants et pour toujours, vous direz et défendre par tous les moyens et en toutes circonstances afin qu'il ne soit profané par l'ennemi.
Ils sont 729 militaires d'Iran, dont un personnel féminin, 221 sous-officiers et 66 officiers formés dans différents centres d'instruction du Mali. Général Ibrahim Dairou Damelé, ministre de la Défense et des anciens combattants.
Les FAMA sont prêtes à accueillir tous les éléments qui veulent la paix, qui veulent la stabilité du Mali, à condition qu'ils respectent les critères d'intégration dans l'armée malienne. Mais j'ai à leur dire que depuis le moment qu'ils ont quitté leur mouvement et mis à la disposition de l'état-major général pour la formation, ils sont des FAMA. Ils resteront FAMA et les FAMA, l'armée malienne, c'est une famille.
Moussa Ag Atayer, porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA.
Nous avons assisté à la cérémonie de la sortie de la première promotion des éléments du MOC, du mécanisme opérationnel conjoint, dans le cadre du DDR accéléré. Et nous avons à peu près 1006 éléments qui sont sortis. Et ces 1006 éléments constituent une raison d'espoir et d'espérer et de croire aussi qu'avec la conjonction de l'ensemble des efforts des uns et des autres, nous pouvons arriver à des résultats à la hauteur des attentes des uns et des autres.
Pour le ministre de la Cohésion sociale, de la Réconciliation nationale et de la paix, leur intégration ne doit plus prendre du temps. Lassine Bouari.
Et ce que je souhaite maintenant, c'est que le reste de la procédure d'intégration puisse être davantage accéléré pour que franchement, au bout d'un certain nombre de mois que je souhaite très très réduit, nous puissions essayer de dire que l'accord a existé et qu'il ne doit rester que des éléments de suivi, des éléments de renforcement, des éléments d'accompagnement.
C'est dans le cadre de la démobilisation mobilisation, désarmement et réinsertion DDR accélérée que ces ex-combattants vont intégrer les forces armées et de sécurité du Mali. Zabi Ould Sidi Mohamed, président de la Commission nationale du DDR.
Avoir une armée comme ça, vous avez tous les fils du pays, c'est un grand pas pour l'unité nationale. Et moi, je suis sûr qu'avec les retrouvailles de tous les Maliens, du nord, du sud, du centre, notre pays s'en sortira, Inch'Allah.
Les 1006 éléments officiers, sous-officiers et militaires d'Iran ont été invités à l'observation stricte et entière des principes républicains. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le Bureau fédéral américain d'investigation FBI a formé au Congo-Brazzaville des policiers et gendarmes à la technique d'interrogatoire dans le respect des droits humains. L'objectif est d'outiller ces agents congolais à mieux conduire des auditions sans violer les droits de l'homme. Les précisions avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
De nombreux Congolais se plaignent de la pratique de la torture par les agents de sécurité lors des arrestations ou pour obtenir des aveux pendant leur détention.
J'ai été victime de la torture physique dans une parcelle à Mungali, c'est la parcelle de Monsieur Clément Mirassa, et des agents de force de l'ordre sont arrivés. Ils ont jeté des bombes lacrymogènes dans la parcelle. Nous voulions sortir par le portail. Il y avait un groupe de policiers. J'ai été fauché, je suis tombé par terre, j'ai eu des coups de poing, j'ai reçu des coups de matraque. Manu militari, on m'a mis dans une BJ de la police où nous étions encadrés. Je n'étais pas tout seul, nous étions 11. On nous a emmenés à la DST sans que nous ayons fait quelque chose. Nous étions, je vous rappelle, assis et nous étions en train de discuter tranquillement.
Ces témoignages pleins de douleurs sont récurrents dans le pays. Et pour y mettre fin, les autorités envoient les officiers en formation. Cette fois-ci, c'est le FBI qui s'est chargé de former une trentaine de policiers et gendarmes à la technique d'interrogatoire. Le lieutenant Paul Siska Diamesso témoigne de nouvelles notions acquises.
Chez nous, on ne doit pas être agressif, éviter la violence, pas de torture, en tout cas pas de torture. Ramener la personne à la raison pour faire comprendre que si vous collaborez avec la gendarmerie, nous allons faire à ce que votre sentence soit diminuée.
De même, pour le lieutenant de police, Aïgon Doudi.
Ça a été un moment d'apprentissage et d'acquisition de beaucoup d'outils en termes de techniques et de tactiques qui nous permettront à bien mener nos auditions, nos interrogatoires.
En réalité, la formation que les agents de FBI viennent de dispenser à Brazzaville vise essentiellement les interrogatoires des personnes impliquées dans le trafic des êtres humains. Todd Haskell est l'ambassadeur des États-Unis à Brazzaville.
Le président Trump avait déclaré en février dernier la lutte contre la traite des êtres humains l'une de nos plus grandes priorités.
Pour le commandant de la gendarmerie congolaise Paul-Victor Moigny, il faut désormais que les interrogatoires tiennent compte du respect de la personne humaine.
La République du Congo, qui condamne fermement cette forme moderne d'esclavagisme, pourra désormais, en sus des dispositions déjà existantes, s'appuyer sur cette nouvelle expertise mise à sa disposition par le FBI. Fort de cela, j'ai hâte de vous voir dès maintenant à l'œuvre, à la recherche de la manifestation de la vérité, sans jamais marcher sur la dignité de ceux que vous interrogez.
Les Brazzavillois restent impatients de voir la police et la gendarmerie humaniser les conditions d'arrestation et des détentions, ainsi que les méthodes d'obtention des aveux. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Hello, VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais tous les soirs pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi à la console Darol Swift. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irénée Hermanongo à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.